reprenons, si vous voulez bien. Et pour la première séance de ce séminaire, l'an dernier, le séminaire était... j'avais déjà intitulé le cours « Écrire la vie » et le séminaire était intitulé « Témoigner ». Ce n'était pas très différent, c'était déjà en rapport avec le sujet du cours et cette année, j'ai donc donné le même titre et fait un certain nombre d'invitations d'historiens, de critiques, d'écrivains, de praticiens de cette écriture de la vie. Et nous allons donc commencer par deux historiens qui ont, de manière très importante, insisté sur la présence de la vie dans l'histoire. Sur l'histoire de la vie privée, beaucoup développée dans cette dernière période, sur l'histoire de l'intime, telle que je l'évoquais tout à l'heure, sur l'histoire des individus, de leurs émotions, de leur manière de faire, de sentir, de vivre, d'aimer. Je crois que cette histoire a été très marquée par l'anthropologie et la sociologie, et vous-même, Arlette Farge, vous avez écrit un livre qui a eu, sans doute l'un des premiers que j'ai lu, celui que vous aviez écrit avec Michel Foucault, sur le désordre des familles. Alors vous êtes donc l'une des historiennes, me semble-t-il, principales à avoir mis l'accent sur la présence de la vie et l'importance de la vie dans l'histoire depuis des années et avec de nombreux livres qui, parfois, ont la vie dans leur titre. Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle. L'un de vos premiers livres publié en 1979. Ou La vie fragile, violence, pouvoir et solidarité à Paris au XVIIIe siècle. La vie a donc été, à travers tous vos travaux, l'un des objets de l'historienne. Et c'est donc avec très grand intérêt, très grande curiosité que nous allons vous écouter comme notre première invitée du séminaire.
Je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur, de me faire l'honneur de cette première invitation. En effet, j'ai pris pour intitulé de ce séminaire « Prendre en compte la présence des vies anonymes dans l'écriture de l'histoire ». Alors, si vous me le permettez, je voudrais citer en premier la phrase de Michelet dans son « Histoire du XIXe siècle » qu'il publia en 1872 dans sa préface au tome 3. La phrase, la voici. « L'histoire nous dit toujours comment on meurt, jamais comment on vit ?» Cette phrase, elle situe peut-être un des aspects de la question que je dois traiter devant vous et qui est mienne depuis, vous l'avez rappelé, de nombreuses années. Donc comment prendre en compte la présence de la vie dans l'écriture de l'histoire ? Certes, la phrase de Michelet, elle date de 1872, elle fait partie du passé, et comme l'on dit familièrement, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Mais peut-on déjà avancer que si cette question se pose encore aujourd'hui en 2009 et que je suis là pour vous en parler, c'est que quelque chose, peut-être, dans le récit historique ne fonctionne pas tout à fait aujourd'hui. Ou du moins, quelque chose dans le récit qu'offre la discipline historique. Si la présence de la vie a finalement du mal, depuis la fin du XXe siècle, ce début du XXIe, à émerger des études historiennes, c'est qu'une sorte de brouillage s'est formé depuis plus de 150 ans, sans que nous nous en apercevions, malgré de nombreuses tentatives, et je vais les citer, de la part d'historiennes et d'historiens bien connus de vous tous. Et donc Michelet citait à l'instant ce mangeur d'histoire, comme l'a défini Roland Barthes, l'homme aux cadences du musicien, selon Proust, qui meurt d'histoire comme on meurt d'amour. Quelle belle définition. Puis il y eut, plus tard, bien sûr, au début du XXe siècle, Lavisse, Seignobos, Enfin, dans la deuxième partie du XXe, notamment après la Seconde Guerre mondiale, grande césure bien sûr, il y eut, et je les nomme en vrac, j'en oublie sûrement, Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand Braudel, Robert Mandrou, Georges Duby, ainsi que l'avènement de l'école des annales et de son influence, puis les trois tomes de Faire de l'histoire de Pierre Nora, sous la direction de Pierre Nora, publié aux éditions Gallimard. Ainsi, sous ces nombreux auspices que je viens de vous citer très rapidement, s'organisa la notion d'histoire des mentalités, définissant en un sens, un homme moyen qui aurait eu des attitudes mentales, des attitudes économiques, des postures religieuses bien repérables et qui définirait une société ou une nation. Puis, venant taquiner l'histoire des mentalités, la micro-histoire qui nous vint d'Italie, et qui tint un moment le haut du pavé lorsqu'elle prenait un fait minuscule, un jugement, un fait divers, un accident notoire, comme observatoire social. Alors reprenons l'argumentaire pour aujourd'hui, pour mieux poser l'urgence et la nécessité, c'est ma conviction, de la prise en compte de la vie des anonymes dans le travail historien. Un des premiers devoirs de l'histoire, c'est de donner aux sociétés qu'elle cherche à éclairer de son discours une mémoire de leur passé, ça c'est l'évidence, à partir du récit véridique des événements passés, les guerres, les batailles, la diplomatie, le déroulement du progrès, ses accidents, les changements des paysages sociaux, des paysages culturels et politiques, des pulsions et des pressions religieuses. Et à ces règles d'énonciation, à ce devoir, en somme, l'histoire a presque toujours obéi, n'a jamais failli. Plutôt évolutionniste, surtout au XIXe siècle, la discipline a transmis l'idée d'un rythme soutenu de progression vers la modernité. Et Michelet apporta à cela une sorte de note fougueuse, sentimentale, épique. Mais il faut bien reconnaître, dans les années 1970, Michelet fut repoussé, sinon oublié. Faire de l'histoire à la Michelet, disait-on d'un air harassé. Comme on le disait à l'époque, faire de l'histoire à la Michelet, ce n'était plus en vogue. C'était le péché mortel que les étudiants ne devaient pas suivre. Dans ce paysage, quelqu'un fit effraction. Philosophe, historien, il bouleversa avec fracas certaines certitudes et formes du récit. C'est Michel Foucault, bien sûr, venu sur ce territoire particulier de l'histoire pour y semer d'autres perspectives. L'histoire de la folie, naissance de la clinique, surveiller et punir, naissance de la prison. Moi, Pierre Rivière, l'histoire des vies infâmes, le désordre des familles, Alexis Nabé, la volonté de savoir, furent autant d'ouvertures singulières vers un nouvel ordre du savoir. À souligner tout de suite, Michel Foucault est un théoricien. Or, l'histoire de la folie, surveiller et punir, ouvrage théorique s'il en est, se sont toujours continuées et modifiées par l'accession à des archives, manuscrites où la vie des gens grouillait. Moi, Pierre Rivière, le désordre des familles, que j'ai eu la chance d'écrire en collaboration avec lui, sont des analyses d'archives et de manuscrits et d'archives de minuscules. De même, bien entendu, l'histoire des vies infâmes qu'il fit paraître dans les cahiers de la NRF en 1977. Dans son article de l'histoire des vies infâmes, Michel Foucault écrit « Ces textes surgissant du silence des archives ont secoué en moi plus de fibres que ce qu'on appelle d'ordinaire la littérature. » Voilà donc un historien qui soudain, un philosophe et un historien, qui secoue soudain, j'allais dire l'ossature première du roman, de la littérature, l'émotion, les fibres. Et lui, qui peut écrire, et c'est un fracas pour l'époque, ces textes d'archives surgissant du silence ont secoué en moi plus de fibres que ce qu'on appelle d'ordinaire la littérature. Les archives dont il s'est servi, les correspondances, les mémoires, les journaux, les interrogatoires de police, lui ont procuré une vibration physique, dit-il, vibration physique, à laquelle il n'a opposé aucune résistance. Elle fut motrice de sa pensée, de sa théorisation et de son écriture, de sa belle écriture. Déjà historienne sur les archives à ce moment-là, je me suis inscrite avec lui dans ce sillage étonnant. L'enjeu en est complexe. Ainsi y aura-t-il trois petites parties à mon exposé. D'abord, qu'est-ce que prendre en compte la vie ? Ensuite, qu'est-ce qu'écrire ? Ensuite, l'histoire. Qu'entendre par vie, lorsqu'on est historienne, responsable et citoyenne, responsable de dire l'histoire d'une période, le plus souvent à partir d'objets particuliers choisis par l'historien. Là, les vies sont ces creux, ces choses insignifiantes, ces dessous de l'histoire, car l'individu fait toujours effraction de façon singulière dans le cours ordinaire des choses, par sa seule présence, par ses singularités, ses actes, ses opinions, ses douleurs et ses meurtrissures. La vie, vie entre guillemets, est-elle alors le réel, celui que l'historien tente de retrouver avec passion ? Ou bien n'est-ce pas plutôt, comme l'écrit le poète Yves Bonnefoy, une réalité fille du désir, qui n'est pas une somme d'objets à décrire avec plus ou moins de finesse, mais une communauté de présence. Ah oui, si la vie est une communauté de présence, alors je veux bien en faire l'histoire. Pour l'historien, la vie se révèle à travers des documents ou des archives qui lui permet de donner acte aux présences, aux êtres parlants, à ces présences qui sont à la fois singulières, plurielles et en communauté. Plus que cela, la vie est aussi celle des expressions multiples et savantes de la pensée de chacune et de chacun, quel que soit son parcours social et son paysage imaginaire. Prendre en compte la vie, c'est d'abord se laisser surprendre. Se laisser surprendre par l'archive, par les fragments de discours, par les morceaux de texte, par les propos tenus, par les mises en situation que l'on découvre lorsque l'on est dans les archives, où un être, un individu fait acte. Qu'est-ce que c'est faire acte ? C'est agripper son temps pour s'exprimer, se défaire ou s'introduire dans le monde social, s'écarter de lui ou y plonger pour le meilleur ou pour le pire. De cela, on doit, on peut faire l'histoire. Et la vie, c'est sans doute ce qui se dérobe le plus, en fait, aux yeux des historiens. Ils la recherchent toujours avec une grande hâte et une grande passion. C'est rare de la trouver. Et la trouve-t-on vraiment ? C'est ce qui se dérobe le plus aux yeux des historiens, car ils sont quand même, peut-être, davantage préoccupés des grands moments, des grands événements qui se sont succédés les uns après les autres, et des mouvements collectifs qui ont accompagné ces événements. Et pour rester sur cet exemple, je crois qu'il faudrait d'abord préciser que lorsque les historiens travaillent sur les mouvements collectifs ou sur les foules, ils ont un matériau, ils ont des archives, ils ont des traces, ils sont en général contents, et pour eux, c'est ça le réel, ce sont les foules. Mais une foule, qu'est-ce que c'est ? C'est une somme d'événements singuliers. Et puis, les foules, elles n'accompagnent pas les événements, elles sont justement l'événement lui-même, survenant après une annonce, une injustice ou des situations ressenties comme indignes ou heureuses ou au contraire injustes. Et les vies ici qui font foule, de même que les paroles fragmentaires ou les bribes de correspondance dont je parlais tout à l'heure, ne doivent pas être pour l'historien un surplus qu'on laisse de côté quand on travaille la grande histoire, comme on le dit. Ce n'est pas un surplus, ce n'est pas non plus un exemple qu'on peut mettre dans une citation ou une note en bas de page pour faire joli, attrayant, attirant. Ce n'est pas forcément un témoignage, ou alors il faut s'expliquer davantage sur ce qu'est un témoignage, juste ces témoignages qui font scintiller les récits de nos journalistes. Ce n'est pas du temps déchu. La vie des gens anonymes n'est pas du temps déchu que nous devrions laisser de côté, tout simplement parce qu'il viendrait du plus bas des couches sociales. Il n'y a pas de temps déchu en histoire. Il y a des effractions de vie, des temps surgis qui retiennent la société et puis sur laquelle l'historien doit se pencher. C'est justement cela, le corps du devenir, comme tout autre événement. Les mots énoncés à ce moment-là, les énergies dépensées, organisent là où les vies, les sociétés, formant des espaces où incliner le regard, même s'ils excèdent ou brisent la norme. Ils sont aussi importants que l'histoire avec un grand H, parce qu'ils sont l'histoire. Alors la vie, les vies, ce ne sont pas des simples anecdotes. Ce sont en fait, comme l'écrit Jacques Rancière dans ce beau livre La Mésentente, ce sont des êtres qui engagent sur des mots et des actes un destin collectif. La vie que les cinéastes, les romanciers, les photographes, les artistes ne cessent de contempler, d'écrire, d'interroger, est sûrement l'objet que l'historien a le plus de difficultés à appréhender, à réussir à non seulement exister dans son récit, mais à en être la partie prenante de son récit, l'intégrer totalement, sans séparation, dans le cours de son récit. On n'écrit pas de chapitres à part sur la vie au XVIIIe siècle, du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Les vies irriguent l'histoire, tissent les périodes pour le chercheur, et être attentif et interprétatif face à elles est une obligation. Mais comment retrouver la vie ? C'est pas toujours simple, je dois reconnaître, à retrouver dans les archives. De plus, celle qu'on retrouve grâce aux sources n'est point, comme je le disais tout à l'heure, un morceau de réel qu'on juxtaposerait tant bien que mal aux explications historiques des grands historiens. Elle n'est pas non plus directement visible ou lisible. Prise en écharpe pour le chercheur, il lui faut la contextualiser, la repenser, la réinterpréter. On ne peut jamais tenir une vie, des vies ou des paroles vivantes, ni les prendre pour des acquis prêts à penser ou pour en faire un savoir de plus. Pas du tout. Les vies, elles s'inscrivent dans la temporalité et dès lors elles font question. Quel moment de l'histoire révèlent-elles ? Ou de quel moment de l'histoire sont-elles redevables ? Quel est le jeu de leur instance, le sens de leur surgissement ? Leur irréductible singularité fait-elle écart avec d'autres vies, d'autres morceaux du réel ? Bien sûr. Mais alors, si l'écart existe, comment discuter, comment parler, comment écrire l'histoire sans jamais exclure cet écart ? L'existence d'une vie, d'une parole, d'une œuvre, comme d'un événement, a pour statut une totale irrégularité et une mobilité constante. Cela permet alors à l'historien de comprendre que l'irrégularité, le discours, le disruptif, le discontinu font sens et qu'il n'a pas toujours à chercher les causalités littéraires les plus linéaires, les plus banales. Car les vies dérèglent le cours de l'analyse historienne et le passé comme le présent prend appui sur les failles de ces vies, sur leurs énergies, sur leurs effondrements, sur leurs ruptures, celles qui sont vécues par tous et par toutes. Finalement, ce qu'il y a de passionnant pour un historien qui travaille sur ces vies et sur leur articulation avec les vies collectives, c'est que le discontinu comme le défiguré sont en fait les matrices de l'histoire. Par chance, la vie et le verbe sont insistants dans les documents. Les énoncer, c'est encore savoir les articuler avec les espaces, les lieux, les contextes historiques, les groupes sociaux, les instruments de pouvoir, et déceler comment les sociétés gèrent ces articulations pour avancer. Les gèrent au mieux ou au pire. Faire leur histoire, en même temps que faire de l'histoire, c'est accepter le désordre. Or, pour l'historien et pour nos esprits cartésiens, c'est très difficile de se mettre cela dans la tête. On n'apprend pas tellement aux étudiants le désordre. Et pourtant, c'est le désordre qui est la vie. Et c'est la vie qui est désordre. Et je ne fais pas de jeu de mots. Je l'ai trop appris par les archives pour vous le dire tout gentiment aujourd'hui. Faire leur histoire en même temps, faire de l'histoire, c'est donc accepter le désordre et déclasser ce qu'on a cru trop vite classé. Car le jeu, J-E, le jeu s'échappe toujours des unités homogènes créées par les pouvoirs ou les églises. Je se détache et se distrait, au sens fort du terme, au sens pascalien du terme. L'histoire se doit alors de traverser le champ chaotique des vies retrouvées, le champ de leur silence, le champ de leur conflit, le champ de leur résignation. Ces champs déroutent l'historien tout en fabriquant l'histoire, car ces champs, CHAMPS, ces champs sont faits de ces myriades d'enchevêtrements qui se passent entre les vies, les situations et les événements. Et puis, ces vies ordinaires, elles ont existé, elles ont vécu. Elles se sont empoignées à leur histoire et à l'histoire. Et ce qu'on oublie davantage, c'est qu'elles ont pensé. On s'est beaucoup penché en histoire des mentalités sur l'histoire de l'alimentation, l'histoire de l'amour, l'histoire du mariage, l'histoire de la sexualité, l'histoire des femmes, l'histoire des vêtements, etc., etc. Simplement, on avait oublié qu'ils pensaient quand ils s'habillent, quand ils s'aiment, quand ils souffrent, quand ils meurent. Et c'est que ces vies ont pensé, c'est-à-dire qu'elles ont posé du savoir, de l'intelligence et de la compétence dans les espaces privés et publics qu'elles ont rencontrés. Et à n'en pas douter, les communautés sociales sont faites de tous ces trajets, de tous ces mots, du contenu de toutes ces pensées éclatées qui s'articulent au corps et qui s'articulent au corps personnel comme au corps social. Aussi, pour le récit historien, les vies ne peuvent se réduire à une description anthropologique de leurs habitudes, de leurs coutumes, de leur culture matérielle, religieuse et symbolique. C'est important, bien sûr. Mais cela oblige à ce que soient pris en compte les sensibilités, les affects, les postures au monde, les moyens de défense aussi vis-à-vis du monde, qui sont pensés et agis par tous. Les manières d'anticiper l'avenir, c'est un très beau sujet. Comment est-ce qu'on anticipe l'avenir au XVIIIe siècle, par exemple? Et les moyens de produire du sens pour aujourd'hui, pour notre présent. Alors, dès lors, dans les archives, l'historien se prend à frôler le sublime comme le pathétique, emplissant les événements d'autant de raisons que de passions. Le flux des pensées venant des vies rencontrées est une matière difficile à saisir. Pourtant, sa présence démultipliée organise et désorganise l'histoire. Et je pense, c'est subjectif, qu'en ce sens, les corps et les vies sont politiques. Parce que capable de jeter un regard sur elle-même et de se projeter vers l'avenir. C'est en donnant sens à toutes ces formes de vie que l'historien peut offrir à ceux qui l'écoutent ou à ceux qui le lisent une connaissance. La connaissance, ce n'est pas non plus un acquis, c'est un espace. C'est un intervalle où chacun, au présent, est libre de se situer. Connaître les vies d'autrefois pour l'historien et les transmettre à ceux du présent, c'est peut-être créer un savoir qui est de l'égalité à venir. Alors, les vies, c'est ça. Alors, écrire, c'est quoi ? Écrire les vies pour l'historien, écrire. Une fois les vies retrouvées ou censées être retrouvées puis réinterprétées autour d'un objet d'histoire précis, une fois précisées, comme je viens de le tenter ici, les systèmes d'analyse pour les faire entrer dans le récit historique, il faut écrire. Alors, c'est le plus difficile, le plus aventuré, le plus risqué, le plus beau peut-être. Chaque historien a son type d'écriture. D'autre part, il n'est ni écrivain ni romancier. On croit savoir qu'il le regrette. On dit toujours que l'écriture suppose un don, ce qui n'est pas faux. Mais l'écriture, c'est d'abord un travail. Écrire l'histoire en tenant compte de la présence des vies, c'est une tâche difficile, intérieure, très personnelle. Je ne peux pas dire ici ce qu'est l'acte d'écrire pour les autres historiennes ou historiens. Je me permets, si vous le voulez bien, d'avancer quelques points sur ma pratique de l'écriture de l'histoire des vies populaires du XVIIIe siècle, sur laquelle on m'a souvent interrogée. Comment je fais ? Je ne sais pas trop, mais je vais quand même vous dire. Lire les documents, c'est voir. Lire les archives, c'est voir. Voir des morceaux de société à travers les documents. Sentir des odeurs, on parlait tout à l'heure des odeurs. Appréhender des formes, des corps, des couleurs. C'est voir en couleur, en somme, comme au cinéma. Avoir la nécessité d'écrire ensuite, pour le faire bien, il faut être simultanément en empathie et en distance envers l'objet étudié ou avec lui. Et détenir une intense conviction pour ce que l'on veut démontrer par la suite, ce qui découlera comme démonstration de l'écriture. Car écrire de l'histoire, ce n'est pas seulement raconter, c'est démontrer. Aussi, s'il faut filer une métaphore, dont par ailleurs je crois qu'il faut toujours se méfier, la première étape de la mise en écriture ressemble à celle du réalisateur de cinéma au bord de son sujet, qui en a imaginé les formes, les césures, les coupes, le cheminement, les interactions entre les scènes, la vitesse, le rythme, les couleurs, le flux sonore des paroles, les attitudes corporelles, le jeu des visages. À l'intérieur de cette vision, qui forme le décor en somme, doit vivre l'écriture. Alors les mots de l'historien servent l'énonciation, l'évocation et la démonstration. Énoncer, évoquer, démontrer sont trois actes différents que l'écriture de l'historien ne doit pas réduire à un seul, mais doit les totaliser tous. C'est ce qui en fait la difficulté. Et puis écrire de l'histoire, écrire, cela demande une autre posture. C'est être en harmonie contrastée avec ce qui fut, être d'accord ou pas d'accord, être convaincu que dans l'air que nous respirons subsiste un peu de l'air qui fut respiré par d'autres autrefois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Walter Benjamin. Je le cite. N'est-ce pas autour de nous-mêmes que plane un peu de l'air respiré jadis par les défunts ? N'est-ce pas la voix de nos amis que hante parfois un écho des voix de ceux qui nous ont précédés sur terre ? Fin de citation. Sans cette familiarité avec le passé, cette conviction qu'aujourd'hui il en subsiste quelque chose en notre corps, rien n'est possible. Mais rien n'est possible non plus sans l'impression de dépaysement. Le passé a été, le présent est. L'historien écrit ce qui a été. L'histoire, comme les vies qui y sont intégrées, est mouvement. À l'écriture alors de trouver le rythme de ce qui se passa. Le rythme, c'est-à-dire la labilité des événements, la discontinuité du temps, la violence de certains événements, de certains actes, la barbarie des dominations sauvages, aussi bien que l'étendue des passivités lentes des sociétés, des résignations, des indifférences envahissantes. Qu'est-ce qu'un rythme pour l'historien ? Et moi, j'ai toujours essayé de travailler comme ça, c'était pas très simple. C'est non seulement la recherche d'une syntaxe et d'une ponctuation, mais c'est aussi d'arriver à parvenir à un rythme sonore qui puisse évoquer, être en unisson avec une société et avec le morcellement du temps passé. Il ne faut point flâner en écriture. Parce qu'en même temps qu'il est nécessaire de décrire et d'expliquer, il faut convaincre. Alors s'il faut convaincre en plus, il ne faut pas plaire, mais convaincre. Ce qui demande un style imprégné de justesse et de conviction. Un rythme sonore qui accompagne la mélodie du temps étudié. La méthode historique, c'est aussi une méthode philologique. Essayer de donner à lire non ce que l'on attend de lire, c'est-à-dire une progression sensible des choses et des événements allant vers un ailleurs et une modernité, etc. Ce qu'en général on aime bien lire parce que ça rassure, on va du même au même. Mais ce qui n'a jamais été écrit. Pour cela, l'écriture oblige à vivre sur deux temps. D'ailleurs, l'historien un peu schizophrène. Celui du passé, qui est la matière de son récit, celui du présent, le sien, et celui de ses contemporains. À lui, l'historien, non de faire coïncider les deux temps, mais de les mettre en écho et de mettre en éveil le présent par ce qui est dit du passé. Alors cet écho, pour être juste, pour être convaincant, il doit être implicite. Il doit être subliminal presque. Il doit être le substrat de l'écriture, le sous-entendu de l'écriture. Mettre en écho, c'est mettre en éveil, je disais tout à l'heure, le présent par ce qui est dit du passé. Implicite, parce que cet écho, il doit seulement nicher dans les mots que choisit l'auteur et il n'a pas intérêt à être expliqué noir sur blanc. C'est la facture de l'écriture sur le passé qui est alors chargée d'éveiller le monde présent. Et puis, l'écriture historienne, elle a peut-être, en tout cas c'est subjectif aussi, a peut-être le tort d'avoir trop de certitudes. D'ailleurs, Paul Ricoeur le disait, c'est pas trop difficile, nous disait-il un jour dans un séminaire à l'école et aux études d'être historien, parce que vous savez toujours la fin de l'histoire. Ah, comme il avait raison, Paul Ricoeur. Alors, l'utopie, c'est d'écrire comme certains écrivains qui affirment parfois ne pas savoir ce que deviendra leur personnage, c'est d'écrire comme si on ne savait pas la fin. Moi, j'aime bien écrire sur le 18e en essayant d'oublier qu'il y a eu la Révolution. Ça a l'air bête, mais c'est drôlement intéressant. J'aime écrire en injectant doucement un sentiment que les choses auraient pu se passer autrement, que l'histoire est si imprévisible qu'il n'était pas inéluctable qu'elle arrive comme elle est arrivée, que telle guerre soit venue, telle révolution se soit accomplie ou non, tel fait divers se soit passé, tel suicide de grand homme soit arrivé ou tel parcours de vie se soit éteint. L'histoire, elle est tremblée, elle est vacillante. Et les vies qui la fondent naviguent entre l'obscurité et la lumière, les croyances et les dénis, les surprises, les fureurs et l'amour, les hésitations et les peurs, et pour cela, il n'y a aucune boussole universelle. Ce pas à pas humain, ou plutôt ce pas après pas humain, doit s'inscrire dans l'écriture. Et l'écriture doit retenir quelques doutes. Elle doit mettre dans son jeu, J-E-U, de l'incertitude, poser une sorte d'écharpe de non-sûr sur ses affirmations, emprunter un langage sans arrogance. Par définition, le monde est sensible, donc il est différent. Et là survient cette grande question du rôle des affects, des sensibilités et des émotions. Que faire de celles-ci toujours rencontrées ou souvent rencontrées dans les documents? Nul doute qu'elle est peu simple à penser, peu simple à écrire. Parce qu'il faut d'abord s'échiner à trouver dans les sources quelque chose qui rende compte de ces sensibilités d'autrefois, être persuadé qu'il n'y a pas d'universel. L'amour au XIVe siècle n'est pas comme celui qui vit au XVe siècle, etc. Allier alors sereinement la distance dont je parlais tout à l'heure, tout en prenant langue avec l'émotion que suscitent les documents. Prendre langue. C'est un terme du XVIIIe, mais qui s'applique bien là. Ça signifie dialoguer, aller vers, revenir vers aujourd'hui, disposer de son savoir pour faire en sorte que le monde des sensibilités ne soit pas un univers invariant et homogène, mais un monde extraordinairement associé aux cultures d'autrefois, à leurs imaginaires, aux économies et aux politiques des mondes d'autrefois. Dire l'amour en histoire, ce n'est pas dire l'amour, c'est se demander comment les relations amoureuses et érotiques, les relations entre hommes et femmes, se sont en fait constamment et complètement transformés de siècle en siècle, sans évidemment qu'il y ait derrière là une idée d'un quelconque progrès. On n'aime pas mieux qu'avant, on n'aime pas moins bien. On aime d'une ou de plusieurs façons qui sont le fruit même de l'histoire de notre société. Dire la révolte, ce n'est pas raconter l'émeute, c'est comprendre de quelle calcination des mémoires, refus individuel du monde, souffrance enfouie, elle se fabrique. Aucune émeute ne ressemble à une autre, car l'histoire ne connaît pas d'universel. Elle se déplie dans le champ de la raison et de la déraison qui appartient à un temps donné. Alors pourquoi l'histoire se doit d'énoncer les mouvements irruptifs des vies et de la vie? Pourquoi ce désir? Parce que tout simplement, l'histoire, elle nous ressemble et elle nous rassemble. Il semble bien que si l'enseignement de l'histoire prenait en compte le coloré chemin de nos sensibilités et de nos émotions, quelque chose de notre rapport à aujourd'hui serait changé. Une assise, si vous me la permettez. L'histoire s'ouvre peu à peu à ce champ nouveau des émotions. Très modestement, il faut le reconnaître, par rapport au temps, depuis le temps qu'elle a commencé cette recherche. Ça fait quand même 15 ou 20 ans qu'on parle de l'histoire des émotions. Mais pour beaucoup d'historiens encore, cette histoire-là risque de dériver vers l'irrationnel, le non-su, et aussi, il faut bien le dire, vers l'inverse de ce que nous apprend le cartésianisme. Or, pour l'historien, c'est terrible. Le cartésianisme, c'est sa foi. Au roman et à la littérature de folâtrer, pense-t-il, dans les atermoiements des consciences et sur les routes des émotions ressenties. Oui, certes. Ce qui n'empêche pas, et c'est même son devoir, ce qui n'empêche pas l'histoire, pour qu'elle soit comprise et que le présent soit riche de sa mémoire, d'intégrer à son récit les fleuves et les torrents des sensibilités qui ont inondé le passé et le fabriquent encore. Juste une seconde pour vous dire à quel point c'est plus difficile pour une historienne que pour un historien de faire l'histoire des sensibilités. Parce qu'il paraît que nous, de toute façon, qu'on en fasse ou pas l'histoire des sensibilités, on en fait. Parce que si on est une femme, on est sensible. Donc de toute façon, pour nous, ça va toujours, sauf que ça ne va pas. Donc, j'ai même plus tout à fait le courage de répondre sur cette question, tant cela me fut demandé. Toujours, on m'a dit, mais c'est parce que tu es une femme que tu travailles sur les vies. Alors, merci, par pitié, peut-être pas aujourd'hui, mais sans quoi, je vous répondrai bien volontiers. Je dirais seulement que, homme ou femme, l'historien, l'historienne, sur ce sujet, a un grand défi à relever. Nous tous, hommes et femmes, contre une écriture des affects qui peut être décriée, il lui appartient de travailler sur la précision des mots choisis et des situations décrites. Elles seules peuvent exhaler les multiples vérités des sensations ressenties. Et ce n'est pas de la mièvrerie féminine. Écrire, c'est le temps le plus difficile pour l'historien, mais c'est un lieu de travail et de précision. Un lieu où doit se tenter et se réussir le grand écart entre le passé et le présent, un écart réfléchi, pensé, aimé aussi. Quant aux sentiments d'autrefois, il est bon de les réfléchir. Car l'émotion, qu'est-ce que c'est ? L'émotion, c'est un affect, un sentiment, un ressenti, toujours suscité par une réflexion sur sa propre émotion. L'émotion, c'est l'ouverture de l'intelligence vers l'intérieur. Et plus souvent encore, c'est aussi une réflexion ouverte sur les émotions d'autrui. C'est l'intelligence faite émotion et ouvrant sur les actes sensibles. Mieux encore, cette réflexion, c'est cela, l'émotion même. Alors faire concrètement de l'histoire, après avoir répondu plus ou moins « qu'est-ce que la vie ?» et « écrire », permettez-moi, si vous le voulez bien, pour terminer, de prendre un exemple rapide à partir de mes propres recherches. Je viens de terminer un ouvrage, essai sur l'histoire des voix au XVIIIe siècle, voix V-O-I-X, publié aux éditions Maya, qui peut-être, en partie, et encore n'en suis-je pas sûre, répond à la question posée « écrire la vie ». Comme vous le comprenez bien, au XVIIIe siècle, on n'a aucun enregistrement sonore. Donc écrire les voix, fallait peut-être déjà avoir une singularité, une idée un peu... Or, dans la société populaire du XVIIIe siècle, l'oralité, c'est le langage principal. L'analphabétisme, l'illettrisme, le peu de culture écrite prime encore dans une société qui, sans contexte, s'enrichit d'une culture écrite prépondérante. Mais l'oralité, le langage verbal, la parole, l'oral, c'est celui des gens du peuple, même si la fascination pour l'écrit est grande. Ainsi, l'oralité, le langage verbal dit immédiatement les sons, les accents, les éclats de voix, les paroles, les mélodies vocales, le rythme des paroles, les échanges oraux et gestuels, les corps à corps verbaux que l'écrit ne vient pas interrompre puisqu'ils n'ont pas l'écrit. Fascinée par cette culture orale, j'ai voulu en retrouver les voix. Après de nombreuses années passées dans ce déchiffrement des archives de police, il m'a semblé que les registres vocaux, là, les voix, manquaient à l'histoire et de façon évidente. Mais aussi parce que ce manque de restitution d'une oralité interlocutrice de son temps empêchait de connaître tout à fait la société de l'époque. Jacques Derrida écrivait « La chair de la voix, c'est ce qui manque à l'histoire. » Oui, c'est ce qui manque à l'histoire. Cette voix que Lacan n'hésitait pas à appeler l'objet manquant. Faire l'histoire d'un objet manquant, ici la voix, c'est poser un défi, entrer dans la part de la vie la moins audible et la plus intime, lieu pourtant qui définit chacun par sa condition sociale, dans sa condition sociale, qui résonne de ses régions, qui prend tous les accents des douleurs, des fêtes, des chagrins, des regrets, qui envahit l'espace, qui permet que des ordres, des contrats, des objurgations soient donnés. La voix, c'est le souffle de l'âme, c'est l'instant éphémère qui relie le jeu au nous, par la présence des vocables prononcés. Retrouver ces vocables, c'est ce que j'ai voulu faire. Que fait dès lors l'historien pour travailler sur ce terrain sonore ? Non audible, matrice de la vie des individus les plus simples. Alors, j'ai pris l'habitude de travailler sur les questions et réponses des interrogatoires de police, mais aussi l'habitude de lire les chroniqueurs et les mémorialistes encombrés des sons de Paris, comme vous l'aviez dit, pour Montaigne et pour d'autres, encombrés de la vie sonore de leur société, l'habitude de lire ces grands chroniqueurs qui s'appellent Rétif de la Bretonne, Louis-Sébastien Mercier, le libraire Hardy ou, plus humblement, le policier Federici. Aussi, j'ai lu sur les paroles et les cris, les tonales et les sons des voix, et je lis les paroles dites, les sanglots étouffés notés par le greffier. J'avance entre témoignages littéraires venus des élites et propos recueillis dans les archives pour écouter. Pour écouter à partir de ce qui fut écrit, écrire sur ce qui seulement fut dit. Deux opérations distinctes, cherchant par l'écrit, non seulement à faire entendre, mais à faire comprendre comment les voix sont constitutives socialement et politiquement, religieusement, du milieu urbain, comment elles organisent des événements, des émeutes, comment elles sont socialement assignées par le pouvoir, qui ne cesse de les dénigrer, de leur apposer des objectifs péjoratifs. Les voix des pauvres sont grossières, elles sont sales, dit Rétif de la Bretonne. Ce sont des borborimes. Ce sont semblables aux étables de nos campagnes. Elles sont rauques comme celles des grenouilles. Puis plus tard, on dira rauques comme celles des prostituées. Elles sont grommelantes et inaudibles parce que dans leur articulation, elles sont ineptes et menaçantes. Dans La Voix et le phénomène déjà cité, écrit par Jacques Derrida, il donnait à la présence la définition suivante. La présence, disait-il, c'est la parole vivante, c'est la voix, c'est la spiritualité du souffle. La voix, c'est l'être auprès de soi, dans la forme de l'universalité. La voix, c'est la conscience. Aussi, dans cette recherche sur les présences de la voix, insatisfaisante fut-elle, il y avait la volonté historienne de saisir la vie au moment où elle s'écrit, IE, et s'énonce. Mais cela ne suffit pas. C'est sans doute un plaisir pour le chercheur, mais rien n'est achevé s'il n'y a pas transmission. Notre histoire souffre de lacunes, celle de pouvoir raconter ce qui a sous-tendu les décisions politiques des sociétés, les annonces de guerre, les formes de systèmes économiques choisis, les guerres qui s'ensuivirent, les religions empruntées, comme au temps de Louis XIV, par exemple, entre les protestants et les catholiques, les émeutes et les révolutions, les dominations successives, le fracas des vainqueurs et des vaincus. Les vaincus ont toujours une voix, qu'ont stigmatisé les élites, à l'historien de donner sens à ces voix. La tâche est peut-être d'autant plus importante aujourd'hui pour l'historien que face au silence du monde et à son trouble, il faut se hisser, je crois, à la hauteur des vies d'hommes et des femmes d'autrefois. Je vous remercie beaucoup.